14h05 sur France Inter et comme promis, une Terre au Carré spéciale GIEC. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Alexandra Dubouchereau et on va décrypter justement les points saillants de ce nouveau volet du rapport, du sixième rapport du GIEC. Merci à vous, à tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Alice du Lot. Alors les vacances, c'est l'occasion pour moi de vous partager deux expériences pour partir en vacances autrement. Alors la première, c'est le woofing, W-O-O-F-I-N-G. Ça consiste à aller n'importe où dans le monde en immersion dans une ferme biologique, en maraîchage, en élevage ou en éco-construction, et de participer aux activités de la famille contre le gîte, le couvert, et évidemment des discussions et des rencontres passionnantes, souvent internationales. Et la deuxième, c'est des séjours en sciences participatives. On part avec un organisme en mission scientifique, avec des professionnels pour étudier la biodiversité animale ou végétale, parfois la géologie, un volcan, un site de dinosaures. On peut par exemple aller sur les traces du loup ou de la panthère, même quand on est enfant. Il y a différents organismes comme par exemple Objectif Science International, OSI, ou aussi Belle Planète. Voilà, et bien bonnes vacances à tous.
Bonjour, Alain en Bourgogne. Eh bien écoutez Mathieu, vous dites que vous allez vous abriter sous un chêne parce qu'il y a de l'orage. Il faut pas dire ça aux auditeurs, je crois que tout le monde sait normalement qu'on ne s'abrite pas sous les arbres, ni sous un parapluie d'ailleurs, lorsqu'il y a de l'orage. Voilà, merci, n'allez pas tuer nos auditeurs, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Anne, j'habite Paris. Je vous appelle parce que je suis en train d'écouter votre émission. En fait, il y aurait une solution à laquelle apparemment, pour l'instant, vous ne pensez pas, pour intégrer l'écologie dans absolument tous les domaines de la vie publique, c'est d'arrêter de parler d'argent. Combien ça coûte ? Une des intervenantes disait, mais la question de la campagne présidentielle, c'est celle du pouvoir d'achat. On arrête. Tout ce qui est sous, on arrête. Et on transforme la question du pouvoir d'achat en éventuellement pouvoir de vivre. C'est ça qui ne va pas. Bon, à bientôt.
Bonjour, Ludo de Balma, près de Toulouse. Salut Camille, salut Mathieu. Alors, j'écoute tous les podcasts, il m'arrive donc de passer des journées entières avec vous. Et je dois dire que concernant le changement climatique, un thème qui revient de manière régulière et pour cause, j'ai un petit problème. C'est toujours la position apocalyptique, catastrophique et effrayante qui est défendue. Alors heureusement, je suis pas dépressif, donc je vis plutôt bien. Mais je regrette qu'il n'y ait pas davantage de controverses sur le sujet. Alors je vous rassure, je ne suis pas climato-sceptique, loin de là. Il y a clairement un changement climatique d'origine anthropique, le GIEC nous l'explique très bien. Mais il y a deux façons de l'aborder. Et la première, c'est celle qui monopolise les débats dans la Terre au carré, à savoir la nature au centre et la sacralisation de Gaïa face à l'homme prométhéen qui pêche par hubris en permanence. Mais la seconde, complètement absente, c'est l'éloge de l'anthropocentrisme, car oui, l'homme libre de Rousseau et qui, selon Descartes, doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, est certes capable du pire, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, il est capable du meilleur. En témoigne l'amélioration des conditions de la vie humaine à travers les âges. Il n'y a pas de meilleure époque pour un être humain que de naître en 2022. Tout est mieux qu'avant. Je vous quitte sur ces mots. Et de grâce, si vous pouviez faire souffler ce brin d'optimisme dans vos émissions passionnantes, variées et dynamiques, j'en serais le plus heureux. Belle journée.
Merci cher Ludovic, merci, on va vous engager je crois pour nous accompagner en tant que soutien psychologique officiel de l'émission, vous qui semblez être un indécrottable optimiste, on
et
en
nous
a bien
qui
besoin.
N'en pouvons plus.
Et puis pour notre auditeur qui nous parlait de ce chêne, mais il avait mille fois raison, ne vous abritez jamais sous un arbre un jour d'orage, même si c'est un chêne majestueux et même si c'est un nigaud d'animateur qui vous en parle. En tout cas pour vos messages, vos conseils et vos humeurs, le numéro du répondeur n'a pas changé pendant les vacances, c'est toujours le 01 56 40 45 45. En août dernier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, publiait la première partie de son sixième rapport, document très commenté, qui montrait l'intensification et l'accélération du changement climatique. La suite de ce rapport arrive donc aujourd'hui. Deuxième volet dans lequel les scientifiques tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Il concerne les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation face aux catastrophes déjà en cours. Même si cette publication risque d'être légèrement éclipsée par l'actualité ukrainienne, eh bien ce nouveau rapport, rédigé pour les décideurs du monde entier, est d'une importance capitale puisqu'il va étayer les politiques internationales et nationales pour les prochaines années. Aujourd'hui donc dans la Terre au Carré, On vous fait le résumé de ce rapport pour vous en donner donc les points clés avec nos deux invités, la géographe Virginie Duva et la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Virginie Duva, vous êtes professeure de géographie côtière à La Rochelle Université. Vous avez participé en tant que co-autrice principale de cette rédaction, donc de ce deuxième volet. Vous avez également collaboré en 2019 au rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Et puis Valérie Masson-Delmotte, vous êtes chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay, directrice de recherche au CEA et co-présidente du groupe 1 du GIEC depuis maintenant 2015. On va donc se retrouver dans un instant pour comprendre ce qu'il faut retenir de ce nouveau rapport. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux messages, aux questions des auditrices et auditeurs sur la page de l'Interro Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et je vous ai préparé un sujet autour du gaz russe pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les énormes enjeux énergétiques et donc climatiques liés à la guerre en Europe.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisé par Valérie Ayestara et préparé par Chantal Le Montagnier avec Sofiane Aktib à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Canicule, inondations, sécheresses, immenses feux de forêt s'enchaînent. Le réchauffement lié à la production de CO2 génère des changements climatiques récents qui s'intensifient. C'est le constat sans appel du GIEC.
Il montre que le rythme du réchauffement actuel est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Et que la dernière décennie est probablement la décennie la plus chaude depuis au moins 100 000 ans. Si l'on analyse la dernière décennie, c'est-à-dire la période 2010-2019, on montre en fait que les activités humaines sont responsables de la totalité du réchauffement climatique sur cette dernière décennie qui est autour de 1,1 degré.
Et c'était la voix du climatologue Christophe Cassou lors de la publication du précédent rapport du GIEC. Donc ça, c'était en août dernier au micro de France 3 Occitanie. Aujourd'hui est donc dévoilée cette nouvelle évaluation qui aborde les effets du changement climatique sur les sociétés humaines, sur les écosystèmes et puis bien sûr les moyens de s'y adapter. Valérie Masson-Delmotte, Virginie Duva, vous êtes avec nous pour en parler. Alors Valérie Duva, vous êtes co-autrice principale donc de cette rédaction de ce deuxième volet du sixième rapport, parce qu'il concerne directement votre discipline. Sur quoi vous travaillez exactement, Virginie Duva ?
Alors sur les impacts du changement climatique et des modalités de développement et d'aménagement des territoires dans les îles tropicales qui sont finalement l'un des types de littoraux les plus exposés et vulnérables qu'on ait à l'échelle de la planète.
Ouais, c'est ce qui fait vraiment la particularité de ces îles aujourd'hui dans le contexte du réchauffement climatique, c'est leur vulnérabilité.
Elles font effectivement, elles comptent hein, parmi ces territoires donc qui regroupent les 3 milliards d'habitants les plus vulnérables de la planète. Elles font partie de ces territoires dits climato-sensibles parce qu'ils sont les plus exposés et vulnérables au changement climatique.
On va y revenir largement avec vous dans un instant. Valérie Masson-Delmotte, ce nouveau rapport donc est un résumé pour les décideurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement et quelle a été la méthodologie en quelques mots hein, pour parvenir justement à la rédaction d'un tel document?
Donc un rapport du GIEC, c'est 270 chercheurs de 67 pays pour celui-là qui passent en revue les éléments factuels, les connaissances scientifiques de plus de 34 000 publications scientifiques dans 18 chapitres et qui le synthétise. Et qui le synthétise dans, en particulier, ce document qui est un résumé à l'intention des décideurs, qui est approuvé mot par mot et phrase par phrase par les représentants de tous les pays pour s'assurer qu'ils représentent fidèlement le contenu scientifique de manière équilibrée, c'est-à-dire que chaque pays retrouve les points importants et que ce soit exprimé clairement.
Alors, mot par mot, phrase par phrase, Virginie Duva, ça a son importance puisque ça a été ce qui s'est passé finalement au cours des derniers jours, là, hein, pour résumer toutes les études scientifiques. Il faut sous-peser chaque mot employé pour les pays auxquels c'est destiné?
Oui, c'est extrêmement important en effet, puisque cette question du changement climatique soulève des questions de justice, soulève des questions d'équité qui sont absolument capitales et effectivement, il est fondamental de placer les bons mots sur ces paragraphes. Ouais.
Donc il y avait cette séance plénière qui était organisée encore hier avec la délégation russe qui a présenté ses excuses auprès de sa collègue ukrainienne pour l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, la qualifiant d'injustifiée. Le message est évidemment très courageux. Est-ce que vous craignez, Valérie Masson-Delmotte, qu'en cette période évidemment très particulière de guerre en Ukraine, le rapport du GIEC passe un peu au second plan, malgré les enjeux qu'il représente?
Moi, je voudrais souligner qu'au bout de ces 12 jours et demi d'approbation, Le message qui était très clair, quels que soient les pays, c'est le besoin de finaliser ce processus, malgré la guerre. Le besoin de coopération, de dialogue, d'un socle scientifique robuste, reconnu par tous les pays, en appui à une analyse stratégique, à l'adaptation, à la résilience, à l'intégration des enjeux climat dans les stratégies de développement, dans le contexte de menaces croissantes du changement climatique, dû tout particulièrement à l'utilisation d'énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon.
Enfin, le contexte est quand même très particulier, Virginie Lua, là, pour sortir un tel rapport, non ?
Le contexte est toujours particulier, ceci étant, la question climat est une question qui est à la fois cruciale, qui est montante, et on est dans une situation d'urgence sur ce sujet, qui fait que finalement, quel que soit le contexte, il est fondamental.
Là, Valérie Masson-Delmotte, ce résumé pour les décideurs, il fait 36 pages, me semble-t-il. Est-ce que vous pensez que là, aujourd'hui, 28 février, les décideurs du monde entier sont en train de le lire, maintenant ?
Je pense que la situation actuelle, après une pandémie, devant ce conflit nouveau, elle montre l'importance d'avoir une vision stratégique sur la résilience. Et le changement climatique, c'est pas un choc, en fait. Ce sont des effets chroniques, ce sont des effets aigus lors des événements extrêmes. Et donc, dans le contexte d'une réflexion de plus en plus stratégique sur la résilience, ça ne peut que susciter un intérêt croissant.
Virginie Duva, donc le réchauffement climatique, c'est pas du tout un problème du futur, hein, c'est maintenant, il nous concerne déjà, une réalité déjà observée avec plus d'un degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Il distingue deux périodes justement ce rapport, le court terme, hein, 2021-2040, et puis le moyen long terme 2040-2100. C'est important justement de pouvoir découper au fond les enjeux de cette façon-là.
Oui, c'est extrêmement important puisqu'effectivement tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de parvenir à construire des trajectoires d'adaptation qui permettent de réduire dans l'immédiat l'exposition et la vulnérabilité des populations aux pressions climatiques. Mmh. Donc ça, ce sont les solutions actuelles, je dirais, hein, celles qui vont pouvoir être efficaces jusqu'à 2040-2050, avant, dans la deuxième moitié du siècle, de passer très probablement à des solutions beaucoup plus radicales et plus longues à construire.
Ouais, on verra toute la complexité d'ailleurs derrière ce mot adaptation, parce que évidemment, des adaptations possibles aujourd'hui, elles vont évoluer au fil du temps, et le rapport nous dit aussi à quel point ce sera important de les réévaluer, Valérie Masson-Delmotte. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce mot adaptation, parce qu'on pourrait presque entendre que la lutte contre le réchauffement climatique, bah, elle est terminée et qu'il faut simplement s'adapter. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le sens du mot, hein.
Je pense que par rapport à votre question précédente, du court terme et du long terme, il y a aussi cet enjeu d'arriver à limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Et donc, on va inéluctablement vers un réchauffement qui atteindra autour d'un degré et demi dans les prochains 20 ans. Donc, c'est important de l'intégrer, les effets inévitables, de s'y préparer. Au-delà de 2050, l'ampleur du réchauffement, elle va aussi dépendre des solutions qui vont être déployées maintenant pour réduire rapidement les rejets de gaz à effet de serre, ce qui donne plus de marge pour l'adaptation. Et donc la question que ce rapport pose, c'est finalement comment gérer les risques. Les risques, ce sont les aléas climatiques qui dépendent du niveau de réchauffement et aussi des effets irréversibles à long terme, comme la montée du niveau de la mer. Ça dépend également de l'exposition à ces aléas climatiques, ça dépend également des vulnérabilités et de la capacité à déployer les solutions qui existent aujourd'hui et qui sont à construire pour la suite.
Et le fait de mettre des dates comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté contre-productif ? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, par exemple, la période 2040-2100, on verra plus tard parce que c'est loin de nous. Et même se dire, bon, 2030-2040, c'est encore dans une petite dizaine d'années. Donc, entre guillemets, on a le temps, Virginie Duva.
Alors non, puisque finalement agir maintenant, hein, agir maintenant est absolument fondamental pour qu'on puisse avoir le maximum de bénéfices des solutions qui auront été mises en place.
Mais d'où ma question, à quoi bon mettre des dates ? Pourquoi pas dire faut le faire maintenant, basta ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais finalement ce que l'on sait, c'est que certaines solutions sont impératives actuellement, comme une meilleure protection des écosystèmes par exemple, comme un développement plus durable, hein, qui permettront d'amortir davantage les impacts du changement climatique, hein, de se donner plus de temps et de se garder un futur dans lequel le champ des possibles restera davantage ouvert, hein, et dans lequel bien sûr la planète restera beaucoup plus vivable.
Valérie Masson-Delmotte demandait à un territoire ou à un pays entier de s'adapter, c'est vraiment faire un pari sur le futur, sur le long terme. C'est toute la difficulté d'ailleurs dans ce type de démarche, c'est finalement d'obliger les États par exemple à se mettre dans une perspective à long terme tout en agissant dès maintenant.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque région est déjà concernée, c'est-à-dire le changement climatique dû à l'influence humaine intensifie des événements extrêmes, provoque la montée graduelle du niveau de la mer, renforce la sévérité de sécheresse dans certaines régions. Et on voit qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, on n'y est pas prêt aux événements les plus récents. Donc moi, je le décris en disant qu'on court en fait derrière un climat qui change vite. Et donc, il y a aussi ce décalage entre les effets d'un climat qui se réchauffe, l'adaptation qui a lieu, mais qui n'est pas encore suffisante, et le fait d'intégrer les évolutions à venir des aléas climatiques dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, par anticipation, de manière beaucoup plus transformative.
On va y revenir dans un instant, on va ressortir les points saillants justement de ce nouveau volet, c'est le deuxième. Le troisième arrivera en avril sur les solutions proposées, toujours dans le cadre de ce sixième rapport du GIEC, et on en parle cet après-midi dans la Terre au Carré. Vous répondez bien sûr aux questions des auditeurs.
Enfin ça allait, confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. J'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger ma faim, j'ai plus mon nom. Si la magie passe, c'est ton.
Démon, Angèle et Damso à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Avec nos invités, la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte et la professeure de géographie Virginie Duva pour évoquer donc le deuxième volet de ce sixième rapport du GIEC. Donc le troisième, ce sera pour le mois d'avril. Le mot-clé de ce deuxième volet, justement, Virginie Duva, c'est l'adaptation. Est-ce que vous avez le sentiment que les États ont pris vraiment la mesure de l'importance de préparer dès maintenant leur pays à l'adaptation ?
Alors jusqu'à ce jour, effectivement, les États ont des difficultés à mettre au cœur de leur priorité cette question de l'adaptation au changement climatique, parce que les États sont pris par un grand nombre de dossiers et finalement s'attachent davantage souvent à régler des problèmes immédiats qu'à finalement prendre en charge des problèmes de long terme. Il y a une espèce de déphasage en fait entre la temporalité des politiques et puis les temporalités qu'impose l'adaptation au changement climatique.
Et Marc nous écrit par mail sur franceinter.fr, le danger le plus immédiat ne serait-il pas celui de la désorganisation des États, le déplacement des populations et tous les conflits qui en résulteront, Valérie Masson-Delmotte?
En fait, dans le chapitre qui porte sur l'Europe, prenons le cas de la région européenne, vis-à-vis de l'adaptation, en fait, ce qui est noté, c'est que les barrières principales, les obstacles pour sa mise en œuvre, ça tient à des ressources qui sont limitées. C'est-à-dire, il y a un potentiel d'adaptation, mais il y a des freins. Les freins, c'est les ressources pour cela, la mobilisation des financements, le manque de leadership politique pour mettre en place des stratégies d'adaptation ambitieuses et parfois un faible sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe au second plan, sauf quand il y a un événement extrême qui, là, va déclencher une réaction un peu immédiate, plutôt qu'une analyse planifiée, stratégique, qui essaie de trouver le meilleur chemin qui maximise les bénéfices, parce que s'adapter à un climat qui change, c'est aussi construire un développement soutenable, résilient, avec de nombreux bénéfices.
Alors comment on procède ? Tiens, si on donnait un exemple concret à nos auditeurs, en France, par exemple, l'adaptation, elle peut s'illustrer de quelle façon en France métropolitaine et en Outre-mer, Virginie Duvas, si on peut donner deux exemples pour voir un petit peu comment ça peut s'organiser et ce qui est déjà fait aujourd'hui, hein.
Alors, face aux risques côtiers d'érosion et de submersion marine, par exemple, l'adaptation consiste finalement à utiliser toute une palette de solutions en fonction de contextes locaux qui sont très spécifiques. Dans les zones urbaines, ça peut être aujourd'hui utiliser les solutions d'ingénierie lourde pour améliorer immédiatement la protection des habitants, des infrastructures, des systèmes de production. Ça peut être également dans des zones moins densément peuplées, finalement redonner de la place aux écosystèmes pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'amortisseurs finalement de tempêtes.
Vous pensez à quoi concrètement, par exemple des mangroves si
Alors ça peut être par exemple rendre à la mer de vastes espaces de marais maritimes ou par exemple dans nos outre-mer replanter des mangroves ou encore recharger artificiellement les plages en sable pour consolider finalement leur rôle de zone tampon face à des vagues de tempêtes. Voilà,
Est-ce que ça passe aussi par des politiques, par exemple, ne pas construire trop près de la mer aujourd'hui, donc dans les plans d'urbanisation
Alors bien sûr, il y a toutes les
actions. Ça n'a pas l'air d'être trop fait dans certains endroits, hein, si je puis me permettre.
Il y a toutes les actions qui passent par la planification territoriale. Hein. Alors en France, on a quand même cette bande côtière des 100 mètres hein, dans laquelle on ne doit pas construire. Hein, mais aujourd'hui, beaucoup de pays à l'échelle de la planète sont en train de mieux intégrer hein, ces actions relatives à la planification spatiale dans leur stratégie.
Valérie Masson-Delmotte, on voit aussi toute la complexité finalement mettre en place des politiques d'adaptation parce qu'il y a l'effet inverse qui est la maladaptation. C'est-à-dire que c'est compliqué parfois de pouvoir mettre en place par exemple des digues sans toucher les écosystèmes, la biodiversité. Donc c'est-à-dire que dans ces politiques et dans ce que vous suggérez, il faut tenir en compte aussi de ces effets délétères.
Oui, c'est pour ça qu'une analyse sous l'angle des risques et puis des bénéfices, des effets indésirables, c'est quelque chose qui est critique. Donc ce qui peut sembler une solution de bon sens à court terme peut présenter des effets indésirables. Le rapport en fournit quelques exemples. Par exemple, construire des ouvrages en dur pour protéger des risques d'inondations côtières, ça peut sembler le plus évident. Mais néanmoins, ça va favoriser le fait d'installer davantage d'infrastructures, d'habitats derrière ces digues. Et puis en cas de conjonction entre une submersion avec une onde de tempête et des pluies plus intenses à l'intérieur des terres, ça peut au contraire exacerber les conséquences de ces événements composites, par exemple.
Donc c'est un vrai casse-tête, Virginie Duvas.
Oui, parce que toute solution est finalement relative à un contexte donné et elle peut être bonne pour une période donnée, mais pas pour la suivante.
Alors pour la première fois, en tout cas, les chercheurs mettent en garde contre les impacts du changement climatique qui s'avèrent non seulement de plus en plus complexes, on vient de le dire, à gérer, mais également qui vont produire simultanément des conséquences en cascade d'une région à l'autre. Alors prenons un exemple parmi tant d'autres, celui de la sécheresse, très récemment, et encore en ce moment en Espagne et au Portugal.
On se croirait dans un désert à des kilomètres de l'Hexagone. Pourtant, nous sommes bien en Espagne. Le pays est frappé par une sécheresse impressionnante. Et voici le résultat. Le lac a perdu près de la moitié de sa réserve d'eau. La raison, des faibles précipitations depuis 4 mois. Il n'a plus qu'un quart de ce qui était attendu.
Si à ces dates, alors qu'il devrait pleuvoir le plus, il ne pleut pas, non seulement les réserves ne se rechargent pas, mais leur capacité en eau continue à diminuer. Cela est inquiétant car en mai et juin, elles ne se rechargent jamais.
De l'autre côté de la frontière, au Portugal, même situation et pour les mêmes raisons. Dans ce pays où près de 30% de l'énergie consommée est hydraulique, le manque d'eau préoccupe notamment les éleveurs et les agriculteurs.
Je n'arrose qu'une fois par semaine seulement parce que les sources d'eau ont très peu de débit. Ici, sur cette zone qui n'est pas arrosée, rien ne pousse et les animaux mangent peu.
Une situation qui menace donc potentiellement la sécurité alimentaire. Cette sécheresse pourrait être la plus grave depuis ces 20 dernières années, selon les scientifiques.
Voilà, France 24, c'était le 14 février dernier. Alors, Virginie Duvas, prenons cet exemple par exemple de la sécheresse. Quels sont les effets attendus, les effets en cascade dont on parlait il y a un instant ?
Alors la sécheresse va bien sûr avoir des impacts sur l'agriculture et donc sur la sécurité alimentaire. Elle va également avoir des impacts sur les écosystèmes naturels. Hein, elle peut causer des dégâts, par exemple, sur des écosystèmes forestiers. Mmh. Elle peut, dans d'autres cas, comme on l'avait vu l'été dernier à Madagascar, déclencher des famines, par exemple. Donc finalement, ces effets en cascade, c'est le processus par lequel les impacts sur un domaine de la vie humaine vont finalement ensuite se répercuter sur d'autres dimensions de la vie humaine pour, au final, générer une situation de déstabilisation de plus en plus accrue des territoires et finalement parfois des situations de crise totale.
Valérie Masson-Delmotte.
Oui, donc ce sont des effets composites qui, par exemple, peuvent venir de la conjonction d'une vague de chaleur et d'une sécheresse, qui vont affecter à la fois le prix des matières premières alimentaires, peuvent réduire aussi les revenus des agriculteurs, et puis affecter des régions entières avec des enjeux de malnutrition, en particulier dans les régions tropicales. Donc ce sont des enjeux considérables et pour lesquels il y a des options d'action qui sont importantes. Par exemple, sur l'amélioration de l'utilisation de l'eau pour son efficacité, une réutilisation de l'eau, des systèmes d'alerte précoce dès le début de la détection d'une sécheresse. Tous ces aspects-là sont extrêmement importants et font partie des solutions qui sont disponibles, mais qui ne sont pas toujours mobilisées.
Mais comment on fait quand on voit, par exemple, en ce moment, en Australie, dans l'est de l'Australie, nord-est de l'Australie, dans le Queensland, il y a des inondations sans précédent qui n'ont pas été vues depuis des décennies. Il y a au moins 8 morts aujourd'hui et des dizaines de milliers de déplacés. Si je fais une comparaison d'événements comme ça qui n'a pas été anticipé, on peut repenser aussi à ce qui s'était passé dans la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois. Comment est-ce qu'on s'adapte quand c'est des choses qu'en fait on ne peut pas prévoir ? Virginie Duva.
Alors on parvient quand même on réussit quand même à prévoir de plus en plus hein, ces événements. En tout cas, les zones qui sont finalement exposées à ces types d'événements qu'on considère sécheresse, qu'on considère les inondations ou que l'on considère les submersions marines ou les phénomènes d'érosion côtière en fait. Tout réside dans la capacité à accepter que les territoires fortement exposés deviennent finalement des territoires d'action. Finalement, face à des situations comme celle-là, très souvent, ce sont des couplages de solutions qu'il faut mettre en place.
Et Valérie Masson-Delmotte, sur un plan purement économique, le rapport montre aussi l'urgence à agir dès maintenant, parce que ça coûte moins cher, finalement, d'agir tout de suite que de procrastiner, hein, avec des budgets qui vont exploser dans les années à venir.
C'est un rapport qui souligne les pertes et les dommages qui sont déjà là, avec une dimension bien sûr économique, mais aussi non économique. Par exemple, la pression croissante pour le bien-être, pour la santé mentale de ceux qui font face à ce type d'aléas croissants. Et vis-à-vis de ces aspects, par exemple, qui portent sur les inondations, il y a un ensemble de solutions. Les systèmes d'alerte précoce permettent de sauver des vies au maximum, créer une culture du risque, savoir comment agir quand l'événement se produit, réserver des espaces pour stocker de l'eau au maximum, y compris en restaurant des zones humides, de sorte à écréter cet effet-là pour les endroits très habités. Cela fait partie des enjeux qui sont importants pour toutes les régions, y compris en Europe.
Allez, on avance ensemble dans ce nouveau volet du 6e rapport du GIEC avec vous, Valérie Masson-Delmotte et Virginie Duva. Et bien sûr, les questions sur le site de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
14h33, Camille, passe au vert.
Et c'est décidément la fiesta aujourd'hui, hein, puisque je vous parle des enjeux énergétiques liés à la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine. Parce que l'Europe, pour se chauffer ou produire de l'électricité, dépend du gaz russe. C'est 40% des importations de gaz de l'Union européenne, avec des pays qui en dépendent totalement, comme l'Autriche, la Lettonie, la Finlande ou la Hongrie. D'autres qui en dépendent largement, comme la Bulgarie à 75%, l'Allemagne à plus de 60% ou l'Italie à 50%. Et pour la France, 20% du gaz qu'on utilise est russe. Dépendance confirmée jeudi dernier par le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné.
Quand on me dit comment vous faites si les 40% de gaz russe disparaissent, alors là, pour le coup, je peux vous dire, je ne sais pas faire.
Donc, vous l'avez compris, le gaz est un méga moyen de pression pour la Russie. Écoutez le chercheur en géopolitique du climat et auteur du GIEC, François Gemène.
Derrière cette guerre, il y a d'énormes enjeux énergétiques. Et quelque part, c'est un peu notre dépendance au gaz russe qui nous a placés en situation de très grande vulnérabilité par rapport à Vladimir Poutine. Et donc, bien entendu, cette guerre a d'énormes impacts sur la géopolitique de l'énergie et donc de ce fait sur le climat.
Pourquoi ? Vous allez comprendre. Parce que les cartes sont en train d'être rebattues. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarait ça le premier jour de l'offensive.
La Russie a instrumentalisé l'énergie depuis des mois et même des années pour mettre la pression, pas seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur toute l'Union européenne. Et nous sommes désormais totalement déterminés à sortir de notre dépendance au gaz russe.
Couper le cordon, mais alors comment? Parce que, en plus du fait, je le disais, que certains pays en dépendent totalement, la consommation de gaz en Europe ne baisse pas, alors que la production domestique venant par exemple des Pays-Bas s'éteint. Les autres fournisseurs étrangers, l'Algérie, le Qatar, l'Iran, ont fait part eux-mêmes aussi de leur capacité limitée à compenser et puis faire venir du gaz naturel liquéfié, autre option par exemple des États-Unis. Mais c'est galère parce que l'Asie, dont la demande est très forte en ce moment, fait monter les prix, il n'y a pas assez de navires méthaniers en plus. Et puis, nouvel aveu de Patrick Pouyanné chez Total, les terminaux dits de regazéification, c'est-à-dire ceux qui transforment le GNL en Europe.
Ils sont tous pleins en ce moment et on n'a pas assez de terminaux de regazéification en Europe pour remplacer les 40% de gaz.
Voilà, l'Allemagne, par exemple, n'a aucun de ces terminaux et il faut 2 à 3 ans pour en construire. Conséquences possibles donc à court terme.
La solution, ouais, elle est simple, c'est qu'il va falloir chauffer à l'électricité et donc au charbon polonais et allemand.
Voilà, donc vous l'avez, l'impact sur le climat, un énorme effet boomerang d'après François Gemène.
C'est faute d'avoir anticipé notre sortie des énergies fossiles, faute d'avoir déployé de vrais plans en matière d'énergie renouvelable, que nous sommes trouvés dans cette situation de vulnérabilité, que nous avons confié un énorme pouvoir à la fois à des dictateurs autoritaires, mais également aux oligarques qui les entourent. Tous les oligarques qui entourent le président Poutine, ce sont des gens qui ont fait leur fortune avec le pétrole et avec le gaz.
Et cette fois, selon Carole Mathieu, qui elle est chercheuse au Centre Énergie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, la Russie pourrait même, si ça continue à augmenter le degré des sanctions, pourrait être tentée de franchir une frontière qu'elle n'a jamais franchie, hein, pas même pendant la guerre froide, couper les robinets de gaz parce que ce sont en fait ces exportations pétrolières à d'autres zones de la planète qui lui apportent le plus, pas le gaz. Mais ce sujet de est-ce qu'elle va franchir cette frontière-là ou pas fait quand même débat. Dans tous les cas, Carole Mathieu, la chercheuse, est sûre qu'il faut prendre le sujet dans l'autre sens.
C'est un message qui se concentre sur l'offre, alors qu'en fait il va aussi falloir agir sur la demande de gaz. Si on veut accélérer la sortie du gaz en Europe, il faut viser le secteur industriel, il faut viser les besoins de chauffage. Et en fait, dans tous ces secteurs, on a des possibilités pour réduire les besoins et donc la consommation de gaz. Si on prend le chauffage résidentiel, on peut jouer sur la rénovation thermique, on peut électrifier davantage, on peut déployer massivement des pompes à chaleur. Dans l'industrie, même chose, on peut favoriser les investissements dans de nouveaux procédés de production qui s'appuieraient sur l'électricité ou sur l'hydrogène produite à partir d'électricité décarbonée et qu'ensuite on planifie les investissements, notamment dans la production d'énergie renouvelable.
Bref, rebattre toutes les cartes avec même une sortie du gaz plus rapide que prévu. Donc, autant vous dire que sa classification, vous savez, dans la taxonomie, ouais, verte assez récente en Europe, est potentiellement remise en cause. Et si vous vous demandez ce que vous, consommateurs, vous pourriez faire, par exemple, je ne sais pas moi, appeler votre fournisseur pour dire que vous ne voulez pas du gaz russe. Alors c'est très honorable, mais ce n'est pas le plus efficace parce que le gaz, il est mélangé au reste et donc on ne peut pas « trier », entre guillemets. Suggestion de François Gemène.
On peut certainement diminuer un peu la température dans nos logements pour réduire notre dépendance au gaz russe. Et c'est un petit geste que chacun peut faire. Mais au final, ce qui va peser, ça sera la décision politique en matière de politique énergétique.
Exactement comme dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce qu'on fait à notre échelle d'une part et la dimension plus structurelle. Et là, pour que les choses avancent et changent, c'est bien à tous les citoyens de mettre aussi la pression.
Et c'est Camille Passauvert que vous réécoutez, bien sûr, si vous le souhaitez, sur la page de la Terre au Carré.
Valérie Masson-Delmotte, cette guerre en Ukraine et plus particulièrement cette tension en Europe, ça pourrait être un basculement dans un sens ou dans l'autre en ce qui concerne le gaz en particulier?
Moi, je ne peux pas préjuger des conséquences de cette situation. Je peux juste rappeler ce qui est une des conclusions claires de ce rapport du groupe 2 du GIEC. C'est que les perspectives d'un développement qui soit résilient devant un climat qui continue à changer, elles seront de plus en plus limitées si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas rapidement. Et tout particulièrement pour un niveau de réchauffement planétaire qui dépasserait 1,5 degré.
Mais là, au-delà de la catastrophe évidemment humaine qui est en cours en ce moment, dans l'hiver prochain par exemple, dans un peu moins d'un an, avoir des centrales au charbon qui se remettent en route à fond les ballons parce que la demande ne baisse pas et que le gaz, il n'y a plus de stock, qu'est-ce qu'on fait climatiquement parlant?
C'est pour cela qu'il y a des enjeux qui sont critiques, de transition systémique, en particulier pour l'énergie. Des systèmes énergétiques qui fonctionnent dans un climat qui change et des systèmes énergétiques qu'on transforme le plus rapidement possible pour sortir des énergies fossiles.
Et baisser le thermostat d'un degré, c'est un vrai acte politique à court
terme,
aujourd'hui ?
À court terme, il y a des solutions en termes d'efficacité, il y a des solutions en termes de sobriété, que chacun chez soi, que les collectivités sont en train d'explorer évidemment également.
Virginie Duvar, on entendait François Jomène à l'instant, il déclarait dans Reporter aujourd'hui au sujet du nouveau rapport, il dit le GIEC, voilà, c'est un très gros paquebot, il a tellement peur d'être accusé d'interventionnisme politique qu'il est un peu attentiste et peut cautionner parfois une certaine forme d'immobilisme. Cette posture n'est pas tenable face à l'urgence. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre sur ce qui fait quand même critique là, hein?
Alors ces critiques, bon, ceci étant, on le voit bien avec l'effort qui est produit dans ce deuxième volume du rapport du GIEC. On a quand même près de 270 engagés qui ont contribué à ce combat. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un engagement toujours croissant finalement de l'ensemble des citoyens. Scientifiques, y compris finalement la frontière. Avec
mais là,
le
je
monde.
Parle vraiment des scientifiques, hein, des auteurs du GIEC en l'occurrence, hein, pas des citoyens.
Oui, oui, bah les, pardon.
Valérie Masson-Delmotte, sur l'attentisme, effectivement.
En fait, ce qu'on demande à un rapport du GIEC, c'est de fournir l'état des connaissances le plus rigoureux, le plus robuste aujourd'hui. Et je pense que le message de ce rapport, il est vraiment très clair. Chaque incrément de réchauffement supplémentaire, ça exacerbe des risques et des impacts qu'on voit déjà aujourd'hui. Il y a des solutions qui existent, on peut les déployer en agissant de manière plus ambitieuse maintenant. Et je pense que le message est vraiment très clair.
Et quand vous avez, on en avait parlé, Valérie Masson-Delmotte, vous avez entendu dans l'émission, quand vous regardez des films comme Don't Look Up, où en gros, vous êtes les scientifiques, vous dites, voilà, c'est la cata, si je dois reprendre les mots de Don't Look Up, c'est on va tous crever. Personne ne vous écoute derrière ou on vous rit au nez. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est encore la même chose, non?
En fait, non. Moi, je vois une attention croissante à tous les échelons. Et peut-être Virginie peut rebondir là-dessus. On parle des États, mais il y a aussi l'échelle des collectivités locales, des villes qui sont en fait en première ligne par rapport aux enjeux d'adaptation à un climat qui change, parce que les gens sont en première loge vis-à-vis des impacts qui sont observés.
Virginie Duvar, comment on peut faire pour qu'il y ait encore plus d'écho sur la sortie d'un rapport comme celui-là? Alors, c'est une question que vous posez, les scientifiques du GIEC, ou pas?
Finalement, je pense que ce qui compte dans cet enjeu d'adaptation, c'est que le collectif d'acteurs concernés, c'est-à-dire l'ensemble des franges de la société, hein, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon local, on parlait effectivement des villes. Les villes, par exemple, aux États-Unis, sont extrêmement actives et compensent en quelque sorte, en partie, hein, par leurs actions, le manque d'action qu'on a pu observer à l'échelon national au cours des dernières années. Mais ailleurs, sur d'autres territoires, ce sont les pêcheurs, ce sont les agriculteurs, ce sont les acteurs du secteur du tourisme en fait qui déploient des actions. À côté des citoyens, ce sont aussi de petites associations villageoises ou encore de grandes ONG. Donc finalement aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des parties prenantes de la société qui se sont mises en marche. Hein. On observe quand même, et c'est un message qui est positif, une augmentation des efforts d'adaptation, même si par rapport aux enjeux relatifs aux pressions climatiques, aujourd'hui ces efforts demeurent insuffisant pour finalement réduire
donc,
considérablement les impacts.
Il faut que la société soit à vos côtés finalement pour que ça ait plus de force, Valérie Masson-Delmotte.
Moi, je veux donner un exemple. Beaucoup de plans de prévention de risque par rapport au risque d'inondation existent, mais ils sont faits en regardant dans le rétroviseur, c'est-à-dire par rapport aux pluies extrêmes du passé. Donc, il y a un enjeu qui est important, qui est le cadre réglementaire de gouvernance, de faire en sorte d'intégrer les risques futurs associés à des événements de pluie extrême qui vont augmenter pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Ça, c'est un enjeu de cadre réglementaire de gouvernance. Mais après, il y a des enjeux qui sont propres à chaque communauté, à chaque endroit. Et de nombreuses solutions existent, à condition de les explorer, à condition que l'information climatique, l'information sur l'adaptation, elle soit disponible, et qu'on puisse examiner l'efficacité des différentes options d'action, en délibérer pour agir.
Et les solutions, ce sera le cadre justement de ce troisième volet qui sortira donc en avril prochain. Allez, des questions pour vous de la part des auditeurs. On y revient dans un instant puisque vous êtes nos invités sur France Inter. The Smile à l'instant sur France Inter. Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Vue de haut, elles ressemblent à des cartes postales de rêve. Les îles Salomon dans le Pacifique Sud sont en réalité en sursis. Des chercheurs australiens ont comparé les photos aériennes et satellitaires de 32 îles de l'archipel. Entre 1947 et 2014, 5 manquent à l'appel et 6 sont menacées. En 5 ans, une dizaine de maisons ont été submergées.
Les îles Salomon sont des îles particulières où le relèvement est plus fort. En fait, l'océan n'est pas une sphère parfaite. Il y a des endroits où le relèvement du niveau de la mer se fait plus vite. Et c'est le cas de l'ouest du Pacifique, en fait.
Depuis 22 ans, l'eau monte d'un centimètre par an, 3 fois plus vite qu'auparavant et qu'ailleurs. Les îles du Pacifique se protègent comme elles peuvent. La pelleteuse pourrait devenir leur meilleur emblème.
Voilà, c'était France 3 en 2016 et la voix du climatologue Hervé Le Treut. Virginie Duva, vous qui êtes spécialiste justement de la question côtière, et ces petites îles sont au cœur aussi de ce nouveau volet du rapport du GIEC. Est-ce que, comme elles sont particulièrement concernées par le réchauffement climatique, elles sont en avance sur l'adaptation justement aux effets du changement climatique ?
Alors on les présente effectivement souvent comme des territoires qui pourraient être pionniers en termes d'adaptation. Je dirais que ce n'est pas tout à fait le cas. Elles accusent un retard en termes d'adaptation et qui est souvent plus important que finalement celui des pays continentaux ou des États développés, pour une raison qui est qu'elles manquent beaucoup de moyens finalement pour mettre en place ces mesures d'adaptation. Manque de connaissances, manque de capacités humaines, de capacités techniques, de capacités financières, avec une très grande dépendance au financement extérieur.
Oui. Alors même qu'elles sont climato-sensibles, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, et très très vulnérables.
Hein. Oui, tout à fait. Alors ceci étant, au cours des vraiment ce nouveau rapport du GIEC, met ceci étant en évidence le fait que ces territoires sont entrés finalement dans une phase d'expérimentation d'un certain nombre de solutions. Ce qui est extrêmement positif, même si aujourd'hui on reste beaucoup sur des projets pilotes, c'est-à-dire sur la restauration d'une petite zone de mangrove, ou sur finalement la surélévation d'une zone côtière.
Ouais.
Voilà. Donc on est véritablement dans ces territoires confrontés à un manque de capacité à anticiper et aussi à essayer de monter en termes d'échelle pour avoir des actions qui soient beaucoup plus importantes et qui soient beaucoup plus réductrices de risques.
Alors je vais vous lire Valérie Masson Delmotte, 3 messages qu'on a reçus sur franceinter.fr et je vous demanderai d'y répondre ensuite. On a d'abord Pierre qui nous écrit « Pour la première fois, j'ai l'impression que l'ambition du rapport du GIEC est condamnée à l'inaudible à force de répétition. Et pour reprendre un message de votre auditrice sur le répondeur tout à l'heure, ce n'est pas de techno-aménagement qu'il doit être question. Le reportage aux Maldives qu'avait fait Guy Vanctil, dit-il, a montré le résultat en bétonisation et en corruption, mais bien de conscientisation d'un changement de civilisation. » Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est Dominique qui nous écrit « Je vous écoute comme tous les jours. Je suis scandalisée, nous dit-elle, par les propos de vos invités. » Elle parle de trajectoire de transition, d'adaptation. Mais moi, sur le terrain, je vois toujours autant de béton s'étaler, toujours autant de poids lourds sur les routes, toujours des digues qui sont en train d'être mises et des climatiseurs pour se protéger des fortes chaleurs. Concrètement, il ne se passe rien, sauf des ponctions dans le porte-monnaie des citoyens, dit-elle. Et le dernier message, Nicolas a écrit « 6 rapports et rien ne change, pourquoi ne le dites-vous pas ?» Alors Valérie Masson Delmotte.
Ce rapport, il montre qu'on est face à la fois à un climat qui change, du fait de l'influence humaine, mais aussi une utilisation qui est non soutenable des ressources naturelles, des destructions d'habitats, d'écosystèmes, une urbanisation croissante et des inégalités croissantes qui exacerbent finalement les vulnérabilités. Donc oui, la situation elle est extrêmement préoccupante. On voit qu'on est devant des menaces majeures pour les écosystèmes, pour le bien-être humain. Et on voit aussi que aujourd'hui les réponses sont plutôt réactives de petite échelle plutôt que des transformations de fond. Et c'est un rapport qui souligne l'importance des interconnexions entre les sociétés humaines, la nature et les écosystèmes, et qui souligne aussi l'importance de l'éducation, de la formation, de ce qu'on appelle la littératie sur le climat, c'est-à-dire le fait de comprendre les enjeux, de les intégrer dans la prise de décision.
Et vous avez l'impression, pour reprendre le message de Pierre, d'être audible. Lui parle d'inaudible.
Alors, moi, par les échanges que j'ai, je vois une prise de conscience croissante, y compris à l'échelle de personnes qui ont des fonctions de responsabilité dans des entreprises, dans des collectivités. C'est assez frappant de voir cette prise de conscience.
Partout dans le monde, où il y a
partout
certains
dans le monde,
pays plus que d'autres.
Partout dans le monde. Mais par contre, il y a cette vraie difficulté de passer aussi de la compréhension des enjeux à une implémentation rapide et efficace.
Virginie Duva, vous entendez hein, ces auditeurs qui, évidemment, approuvent totalement le fait qu'on sorte des rapports, mais qui sont désespérés, finalement, par quasiment les faits délétères, en tout cas totalement neutres de leur publication ?
Il faut qu'on atteigne finalement un niveau de conscientisation optimal pour pouvoir opérer ce basculement, en fait, cette révolution de nos modes de vie, de nos territoires, hein, de nos modalités de développement. Et effectivement, c'est quand même cette révolution des territoires, cette révolution des modes de vie, ça remet quand même en cause hein, le paradigme de développement sur lequel finalement on se trouve depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même un changement absolument radical.
Tout en restant, en tout cas on le sent que vous voulez, vous et les scientifiques en général, dans votre rôle de scientifique, c'est ça qui est compliqué, c'est que vous avez un rôle qui doit rester factuel, informatif, de transmission, je ne sais pas comment le dire, sans entrer dans la politique. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous réussissez à rester sans sortir de vos gonds et sans dépasser la limite scientifique qui est votre rôle ?
Alors on s'aperçoit que les besoins sont de plus en plus importants. Par exemple, en Polynésie française, dans le cadre d'un projet de recherche, il nous a été demandé en fait d'organiser des formations pour les acteurs institutionnels nationaux. Donc, on est de plus en plus appelé finalement à former, et aussi de plus en plus appelé à traduire finalement nos connaissances scientifiques sous une forme assimilable, appropriable, utilisable. Vulgariser ou rendu plus accessible et cohérente.
C'est ce que vous faites pour les décideurs justement, hein, si, traduire la littérature scientifique, faire des résumés. François Jomène l'a encore dit. Il faut faire des résumés encore plus courts et susciter justement des thèmes de controverse pour qu'ils rentrent dans le débat public. Est-ce que ce serait une solution justement pour faire plus, pour donner plus d'écho à ces rapports, Valérie Masson-Delmotte ?
Alors, il y a le travail du GIEC en tant que tel, mais il est largement insuffisant. C'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque pays, de chaque collectivité, il y a besoin en fait de mobiliser les connaissances scientifiques spécifiques à ce contexte, de sorte à pouvoir éclairer les choix qui sont faits. Donc il y a beaucoup de choses qui montent en puissance de ce point de vue-là. Beaucoup des scientifiques qui rédigent les rapports du GIEC sont eux-mêmes impliqués dans des stratégies locales ou nationales d'adaptation. Ce n'est pas le GIEC qui va définir la feuille de route, bien sûr, propre à chaque endroit qui doit être délibéré et examiné. Par contre, la manière d'aborder les questions, c'est-à-dire quels sont les leviers en matière d'adaptation, leur potentiel, leurs limites, leurs bénéfices annexes, leurs effets indésirables, qu'est-ce qui permet de tirer au maximum les gens de la pauvreté tout en renforçant leur résilience à un climat qui change, ça vous le trouverez dans les rapports du GIEC. Et en particulier, vous mettiez l'accent sur les solutions vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, mais non, ce rapport, celui du groupe 2, il met en avant des solutions pour vivre dans un climat qui change, en minimisant en fait les souffrances, les pertes et les dommages.
Donc c'est une sorte de kit, finalement, c'est une sorte de livre de recettes, et après on les fait ou on les fait pas. Là, c'est plus à vous de décider qui les fait, qui les fait pas, et de l'imposer.
Alors ce que nous demandent de manière croissante les acteurs à tous les échelons de la prise de décision et de l'action, c'est finalement effectivement de mieux faire connaître ce catalogue ou ce portefeuille de solutions, mais pas seulement, aussi d'être capable finalement d'identifier les conditions dans lesquelles les solutions peuvent être déployées avec succès et produire des résultats en termes de réduction des risques. Donc finalement, on est de plus en plus appelé à aider à construire ce retour d'expérience sur les solutions.
Mais justement, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus accompagner au fond les décideurs, Valérie Masson-Delmotte, parce qu'au-delà de la sortie de ces rapports, est-ce qu'il n'y a pas un vide qui se fait entre chaque publication ?
En fait, il y a besoin de structures qui sont des interfaces entre la gouvernance, l'ensemble des citoyens bien sûr, et la communauté scientifique, parce que les compétences et les connaissances à mobiliser, c'est pas seulement des savoirs académiques, c'est aussi les savoirs des acteurs de terrain, les savoirs locaux ou ceux des peuples autochtones. Le rapport met vraiment l'accent sur ce point-là, donne des exemples d'études de cas qui montrent comment on peut construire collectivement des plans d'action qui soient les mieux informés possibles et flexibles. Et je veux aussi souligner un autre point, c'est que souvent quand on pense réponse, riposte par rapport à un climat qui change, on pense un peu ouvrage en dur, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un rapport qui met l'accent sur les solutions qu'on appelle fondées sur la nature ou basées sur les écosystèmes. Et souvent, il y a un déficit de formation des élus, des collectivités, sur ces aspects-là qui sont très innovants et qui méritent d'être envisagés parce qu'ils offrent de multiples bénéfices climat, écosystème et biodiversité.
Les mangroves dont on parlait tout à l'heure, ça peut être un exemple de ces solutions fondées directement sur la nature, Virginie Duvat, ou pas ?
Oui, tout à fait. Les solutions fondées sur la nature englobent tout ce qui consiste à mieux protéger, gérer plus durablement, restaurer et éventuellement recréer des écosystèmes.
Et l'ingénierie côtière, parce qu'on en parle aussi de temps en temps, hein, les solutions technologiques, elles sont évoquées aussi dans ce rapport. Est-ce qu'elles sont approuvées d'une certaine manière ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de doutes sur leurs effets ?
Alors, elles restent absolument indispensables dans certains contextes extrêmement exposées, hein, par exemple de grandes mégalopoles côtières dans lesquelles elles sont absolument incontournables.
Ouais.
Ceci étant, on vit finalement une période dans laquelle elles sont de plus en plus remises en cause pour leurs coûts, pour leurs impacts négatifs, disparition de plages, suppression finalement de cet espace qui doit être réservé aux écosystèmes et qui contribue à la qualité de la vie, par exemple. Donc on les remet beaucoup en question actuellement. Et on sait que finalement, on ne peut pas continuer sur cette voie lourde comme étant finalement la voie d'adaptation prépondérante.
Un message de Camille sur franceinter.fr qui parle des candidats à la présidentielle en France, mais on peut peut-être extrapoler d'ailleurs à tous les candidats partout dans le monde qui ne restent de toute façon toujours que quelques années, sauf sur certains continents, au pouvoir. Elle dit comment faire, sachant que donc pour eux c'est à court terme et que sauver la planète est un travail de longue haleine. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que finalement ces travaux du GIEC, ils ont une certaine continuité ou ils tombent régulièrement aux oubliettes, et puis quand il se passe quelque chose, on dit « Ah oui, il l'avait dit il y a 20 ans, il l'avait dit il y a 30 ans », mais bon, dans les faits, les choses avancent trop doucement, comme d'habitude.
Alors, le constat scientifique n'a fait que s'affiner, et moi, ce qui m'a frappé dans cette évaluation, c'est le fait qu'en particulier, un certain nombre d'impacts sont jugés maintenant plus sévères, se produisant de manière plus précoce que ce qui avait été anticipé il y a une vingtaine ou il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est un nombre croissant de plans d'adaptation, de stratégies d'adaptation, partout dans le monde, à l'échelle des pays, à l'échelle des villes, à l'échelle des entreprises, avec des enjeux par exemple sur les filières, les chaînes d'approvisionnement, faire en sorte qu'elles fonctionnent malgré les chocs provoqués par exemple des événements extrêmes. Donc on voit que les alertes, je dirais, précédentes ont été intégrées, on voit que ça commence à être intégré, mais pas à la hauteur des enjeux, c'est ce que le rapport souligne. Et sur les contextes électoraux, moi, je pense que c'est aux citoyens et aux journalistes d'interpeller les candidats sur leur stratégie d'action. Quelle est la vision pour l'adaptation de la France, des territoires métropolitains et d'outre-mer face aux enjeux du changement climatique? Ce sont des défis considérables et donc c'est important que cela fasse partie de la vie démocratique.
Les scientifiques l'ont fait récemment dans une tribune pour France Info en interpellant justement les politiques, en disant que vraiment c'était pas du tout assez au cœur de la campagne pour la présidentielle. Virginie Duvat, parce qu'il nous reste très très peu de temps, les humains évidemment sont abordés, la santé humaine, on en a parlé très vite tout à l'heure, mais c'est un point aussi qui est abordé, et puis les écosystèmes, les animaux, les plantes, les espaces naturels aussi. Il y a des estimations en fonction de la hausse des températures. À 2 degrés, on estime que 18% des espèces sont menacées d'extinction, et à 3 degrés, c'est 30% de toutes les espèces qui sont concernées sur Terre. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Camille, on peut signaler cet ouvrage là qui paraît.
Qui paraît cette semaine, Valérie Masson-Delmotte, et que vous préfacez Tout comprendre ou presque sur le climat au CNRS édition, notamment écrit par Bon Pote. C'est un site et un compte Twitter qu'on vous incite à suivre.
Et puis Valérie Masson-Delmotte, vous serez le 17 mars au Théâtre de la Reine Blanche dans le cadre d'un binôme avec Marine Bachelot-Nguyen. Et le 19 mars, vous serez au 104 avec l'écrivain Laurent Godet pour une discussion sur comment changer le climat. Merci beaucoup à toutes les deux.